Le cinquième étage du TSBD est un carré sombre, parsemé d'îlots de carton, de livres empilés. Les plafonniers sont allumés à l'endroit où les ouvriers remplacent le parquet. Ils sont éteints du côté où Lee Harvey Oswald projette d'entrer dans l'histoire dans une centaine de secondes. Ou moins. Sept fenêtres donnent sur Elm Street. Les cinq du milieu sont hautes et arrondies. Celles des extrémités sont carrées. Le cinquième étage est plongé dans l'obscurité au niveau du sommet de l'escalier, mais empli d'une lumière vaporeuse dans la zone donnant sur Elm Street. À cause de la sciure de bois en suspension, les rayons de soleil entrant en oblique par les fenêtres paraissent solides. Dans le coin sud-est, cependant, le ray de lumière est bloqué par une barricade de cartons de livres empilés. Le poste du tireur se trouve de l'autre côté de la pièce par rapport à moi, au bout d'une diagonale nord-ouest-sud-est. Derrière la barricade, dans la lumière du soleil, un homme armé d'un fusil est posté à la fenêtre. Il se tient voûté pour regarder au dehors. La fenêtre est ouverte. Une brise légère ébouriffe ses cheveux et relève son col de chemise. Il commence à épauler le fusil. J'amorce une course maladroite, slalomant entre les cartons empilés, fouillant dans ma poche pour mettre la main sur mon Colt.
« Lee !»
je crie.
« Arrête, espèce de salaud !»
Il tourne la tête et me dévisage, les yeux écarquillés, la bouche ouverte. À cet instant, c'est juste Lee, le jeune gars qui riait et jouait dans le bain avec Junie, celui qui parfois étreignait spontanément sa femme et baisait ses lèvres ouvertes. Puis je vois sa bouche, mince et un peu pincée, se plier en un rictus qui laisse voir ses dents. Quand ça se produit, il se change soudain en quelque chose de monstrueux. Je doute que vous le croyez, mais je vous jure que c'est vrai. Il a cessé d'être un homme pour devenir le fantôme démoniaque qui va hanter l'Amérique à compter de ce jour, pervertissant son pouvoir et sapant toutes ses bonnes intentions. Si je le laisse faire. Le bruit de la foule enfle à nouveau. Des milliers de personnes applaudissent, poussent des exclamations et hurlent à se déchirer les poumons. Je les entends. Et Lee les entend aussi. Il sait ce que ça veut dire. Maintenant ou jamais. Il se retourne vers la fenêtre et cale la crosse du fusil contre son épaule. Moi, j'ai le revolver, identique à celui avec lequel j'ai tué Frank Dunning. Non. Pas juste identique. À cet instant, c'est la même arme. C'est ce que j'ai pensé alors, et c'est ce que je continue à penser. La sécurité cherche à se coincer dans la doublure de ma poche, mais je tire fort sur le 38 pour le dégager, et j'entends l'étoffe se déchirer. J'ai tiré. Mon coup est parti en hauteur, et a seulement fait voler quelques éclats dans le haut du cadre de la fenêtre. Mais cela a suffi pour sauver la vie de John Kennedy. Oswald a sursauté au bruit de la détonation et le projectile de 7 mm du Mannlicher Carcano est parti en hauteur, lui aussi, et allait fracasser une fenêtre du palais de justice du comté. Des cris aigus et des appels stupéfaits retentissent en contrebas. Lee se tourne à nouveau vers moi, son visage transformé en un masque de rage, de haine et de dépit. Il élève de nouveau son fusil. Et cette fois, ce n'est pas le président des États-Unis qu'il va viser. Il actionne le verrou, clac, clac, et je tire une deuxième fois sur lui. J'ai traversé les trois quarts de la pièce et me trouve à moins de 7 mètres de lui, mais je le rate encore. Je vois le côté de sa chemise frémir et c'est tout. Ma béquille a heurté une pile de cartons. Je chancelle vers la gauche, battant l'air de ma main droite armée pour tenter de retrouver mon équilibre, mais c'est peine perdue. Pendant une demi-seconde, je repense au jour où j'ai rencontré Sadie et où elle m'est littéralement tombée dans les bras. Je sais ce qui va se passer. L'histoire ne se répète pas. Elle s'harmonise. Et ce que cela produit généralement, c'est la musique du diable. Cette fois-ci, c'est moi qui ai trébuché, Et la voilà, la différence cruciale. Je ne l'entends plus dans l'escalier, mais j'entends derrière moi le bruit rapide de ses pas.
« Cédi, couche-toi !»
Je lui crie. Mais mon cri se perd dans l'aboiement du fusil d'Oswald. J'ai entendu la balle passer au-dessus de moi. J'ai entendu Cédi crier. Puis une fusillade plus fournie a éclaté, à l'extérieur cette fois. La limousine présidentielle a accéléré, filant à tombeau ouvert vers le triple viaduc, les deux couples assis à l'intérieur rentrant la tête dans les épaules et se cramponnant l'un à l'autre. Mais la voiture de la sécurité s'est rangée le long d'Elm Street, côté Dealey Plaza. Les motards se sont arrêtés au milieu de la rue et une cinquantaine de personnes jouant les observateurs montrent du doigt la fenêtre du cinquième étage où un homme maigre en chemise bleue est clairement visible. J'entends un crépitement, comme des grêlons tombant dans la boue. Ce sont les balles qui manquent la fenêtre et s'écrasent sur les briques au-dessus ou sur les côtés. Beaucoup n'ont pas manqué leur cible, cependant. Je vois la chemise de Lee se gonfler comme si un vent s'était mis à souffler à l'intérieur. Un vent rouge qui déchire le tissu pour s'échapper par les trous. Un au-dessus du sein droit, un autre au niveau du sternum, un troisième à hauteur du nombril. Le quatrième lui a ouvert le cou. Il danse, comme une poupée dans la lumière poudreuse, et son horrible rictus ne quitte jamais son visage. Ce n'était plus un homme à la fin, c'est moi qui vous le dis. Il était devenu autre chose. Ce qui s'empare de nous lorsque nous écoutons la voix de nos anges les plus mauvais. Une balle a touché l'un des plafonniers, faisant exploser l'ampoule et le faisant osciller. Puis une balle décalote le sommet du crâne de l'aspirant assassin, tout comme l'une des siennes a fait éclater la boîte crânienne de Kennedy dans le monde d'où je venais. Il s'effondre sur sa barricade de carton renversé. Crie dans les étages inférieurs. Quelqu'un hurle.
« Un homme à terre! Je l'ai vu tomber !»
Galopade dans les escaliers. Je fais glisser le 38 sur le sol vers le corps de Lee. Il me reste juste assez de présence d'esprit pour savoir que je serai roué de coups, peut-être même tué par les hommes qui montent dans les escaliers s'ils me trouvent avec un revolver à la main. J'ai commencé à me lever, mais mon genou ne veut plus me tenir. C'est sans doute aussi bien. Je n'aurais peut-être pas été visible d'Elm Street, mais si je l'avais été, ils auraient ouvert le feu sur moi. Alors, soutenant mon poids de mes mains et traînant ma jambe gauche derrière moi comme une ancre, je rampe jusqu'à l'endroit où Cédie est tombé. Le devant de son chemisier est trempé de sang, mais je peux voir où se situe le trou. Il est pile au centre de sa poitrine, juste au-dessus des seins. Du sang coule par sa bouche, elle étouffe. Je passe mes bras sous elle et la soulève. Ses yeux ne quittent pas les miens. Ils luisent dans la pénombre vaporeuse.
« Jake !»
dit-elle d'une voix rauque.
« Non, non, ma pépette, ne parle pas !»
Elle n'en tient aucun compte. Depuis quand le ferait-elle ?«
Jake, le président !»
Sain et sauf.
Je ne l'ai pas vu de mes yeux indemnes dans la limousine qui filait. Mais j'ai vu la secousse dans le corps de Lee lorsqu'il a tiré son unique coup de feu vers la rue, et ça m'a suffi. Et j'aurais juré à Cédie qu'il était sain et sauf de toute façon. Ses yeux se sont fermés, puis rouverts. Les bruits de pas sont très proches maintenant, amorçant le virage vers le palier du quatrième et attaquant la dernière volée de marche. Loin en contrebas, la foule hurle d'excitation et de confusion.
« Jake !»« Quoi, ma pépette ?»
Elle sourit.
« Comme nous avons dansé !»
Quand Bonnie Ray et les autres sont arrivés, j'étais assis par terre et je la tenais. Ils m'ont dépassé au galop. Combien étaient-ils ? Je ne sais. 4 peut-être, ou 8, ou une dizaine. Je n'ai pas pris la peine de les regarder. Je la tenais, berçant sa tête contre ma poitrine, laissant son sang imprégner ma chemise. Morte, m'a cédé. Elle avait été happée par la machine, finalement. Je n'ai jamais eu la larme facile, mais je le répète, tout homme qui vient de perdre la femme qu'il aime doit l'avoir, vous ne croyez pas? Oui, mais pas moi. Parce que je savais quoi faire.